une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnages, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes du Boulevard 102.1, en espérant que tu aies passé une belle journée. On va certainement passer un excellent moment ensemble, le toi et moi, puisque j'aurai un 60 minutes à te présenter où on parlera avec un spécialiste en immigration, c'est Maître Maxime Lapointe, que vous connaissez bien si vous êtes des auditeurs réguliers sur nos ondes. Actuellement sur Québec, on est autour de moins 2 degrés. Pour ce soir, ce sera partiellement nuageux. On nous parle d'un minimum de moins 8 degrés avec le refroidissement éolien au cours de la nuit. Ça pourrait être une température ressentie de moins 15. Demain, jeudi, retour du soleil. Donc, une belle journée, maximum de 6 degrés. En soirée, ciel dégagé avec un minimum de moins 7 degrés. Vendredi, c'est nuageux, maximum de 7. Samedi, nuageux, 30 % de probabilité d'averse avec un maximum de 10. Et dimanche, ce sera nuageux avec un 30 % de probabilité d'averse aussi et un maximum de 9 degrés. Maître Maxime Lapointe, ça débute à l'instant. Il est un avocat spécialisé en immigration.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Maître Maxime Lapointe, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. C'est une grosse journée pour vous. En fait, ça fait deux jours en ligne que je vous vois constamment à la télé. Je me suis dit, vas-tu être disponible pour l'entrevue de ce soir? C'est des grosses journées.
Ça fait toujours plaisir. C'est sûr qu'au travers des consultations clients au bureau,
ouais,
des mandats, des questions de mon équipe, l'orientation de nos dossiers, c'est des journées chargées, mais j'avais quand même hâte que l'immigration s'intègre dans la campagne électorale fédérale.
Ouais. Le gros orange, l'autre bord, nous donne énormément de travail. Bon, on parlait des tarifs. Là, aujourd'hui, il a abaissé ses tarifs. Suspension de 90 jours, 10 % pour ce qui est du Canada. Il y a bien des gens qui sont heureux de ça, mais il a promis aux gens qui étaient en situation d'immigration illégale aux États-Unis qui allaient être déportés. Ça fait en sorte qu'il y a un flot d'immigrants qui remontent vers les États-Unis, vers le Canada, bien entendu, et là, arrivent à nos portes. Vous devez être dans le jus comme pas possible ces temps-ci, vous qui êtes spécialisé en immigration.
Non, dans le sens que c'est pas une clientèle qui fait affaire avec des cabinets d'avocats quand on est en train d'essayer de faire une demande d'asile à préparer aux États-Unis, surtout pour la communauté haïtienne, je dirais, qui est assez établie autant au Canada qu'aux États-Unis.
Ouais.
De ce que moi j'entends, même j'ai parlé avec d'autres avocats qui font, eux, des réfugiés, puis on dit on a eu deux téléphones, mais c'est pas majeur. Ce qu'ils disent, c'est que la communauté va aider à monter éventuellement les dossiers, parce qu'il faut présenter un dossier à la douane pour pouvoir se qualifier dans l'exception de l'entente sur les tiers pays sûrs qu'on va reparler plus tard, je suis certain.
Ouais.
Mais, puis au Canada, ben moi, je fais pas de demandeur d'asile. Donc, je suis pas sollicité autrement que pour répondre à mon entourage ou les médias.
Ou les médias surtout.
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Ouais. Est-ce que ça arrive souvent, ça, ce genre d'information-là qui laisse craindre le pire pour les immigrants puis ils décident de tout simplement quitter puis s'en venir vers le Canada?
Bien, on l'a vu en 2017 avec le même président, Donald Trump, dans son premier mandat, qui a menacé de révoquer des statuts, d'expulser des gens de certains pays. Et il y a eu une vague de panique et le message s'est passé comme quoi on pouvait entrer au Canada par le fameux chemin Roxham. Et Justin Trudeau, qui est venu dire aussi, oui, venez, on est un pays d'accueil. Donc là, 1+1+1, mais ça a fait ce qu'on a connu du chemin Roxham, qui a été fermé en 2023, le 25 mars, avec la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs. Et là, on est venu dire, non, on ne peut plus faire une demande d'asile dans un point d'entrée irrégulier, là, comme c'était le cas du chemin Roxham. À l'époque, il faut comprendre, les gens voulaient se faire trouver, se faire cueillir par les services frontaliers pour avoir un numéro de dossier de demandeur d'asile. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, il y avait, dans la renégociation de l'accord, Il y avait une exception pour les gens qui rentreraient, moi j'appelle ça, bon, par la forêt, là, de manière irrégulière, et qui se cacheraient au Canada pendant 14 jours. Au 15e jour, ils pourraient faire une demande d'asile au Canada. Nous, les avocats, c'est cette exception-là qu'on ne comprenait pas et qu'on se disait qu'il allait devenir le prochain chemin Roxham.
Ouais.
Finalement, ce n'est pas vraiment arrivé. Ce qui est arrivé, c'est plutôt qu'il y a eu des demandeurs d'asile d'Inde, du Bangladesh, du Mexique, qui sont entrés par avion au Canada pour demander l'asile au point d'entrée à l'aéroport. Et là, les gens disaient « on a fermé le chemin Roxham, on a déplacé le problème ». Moi, ce que je dis, c'est non. On a fermé le chemin Roxham et on aurait eu de toute façon le problème aux aéroports. Parce que c'est pas le même monde, là, ceux qui font la grande migration des États-Unis au complet vers le Canada versus quelqu'un qui part d'Inde et qui, lui, veut aller aux États-Unis en rentrant par le Canada. Donc, dans les deux dernières années, disons, on a vu plus le flux migratoire du Canada vers les États-Unis. Et ça, personne n'en a parlé. Mais
à part Donald Trump.
Exactement. Ouais. Donc, ça a créé un peu... Après ça, bon, on arrive 2024, Donald Trump, Joe Biden décroche. Finalement, bon, Donald Trump est élu. Et là, c'est là qu'on a recréé encore la même panique, plus ou moins qu'en 2017, mais là, plus ciblé, entre autres, pour la population, bon, haïtienne aux États-Unis qui bénéficie d'un statut de permis de séjour temporaire.
Depuis le tremblement de terre.
Ouais, qui venait avec une date d'expiration. Tu sais, c'est par décret, ça peut être renouvelé, annulé. Et là, c'est un peu comme les tarifs. Hein?
Ouais.
Et donc là, Donald Trump a dit que ça devait finir au mois d'août, finalement. Ou pas finir. Non, en fait, ça va finir au mois d'août. Donc là, c'est ce qui a commencé à créer des mouvements. Et là, l'entente sur les tiers pays sûrs, l'exception qu'on n'a pas vu venir personne, c'est que si tu as de la famille au Canada, puis le concept de famille est assez élargi, ça va jusqu'aux oncles, tu peux dire au point d'entrée terrestre, comme le poste frontalier de la colle, tu peux entrer au Canada, dire bonjour, moi je viens ici demander l'asile parce que je me qualifie à l'exception de l'entente sur les tiers pays sûrs, parce que mon frère est ici, voici mon certificat de naissance, son certificat de naissance, des photos, un test d'ADN, et j'en passe. Il faut documenter un dossier. Donc c'est l'exception dans l'exception, mais avec les volumes d'Haïtiens au Canada, la communauté haïtienne est très grande à Montréal. Donc, il y en a des gens aux États-Unis qui ont de la famille au Canada et avec le volume d'Haïtiens qui a des permis de séjour temporaire aux États-Unis, bien, un plus un plus un, c'est Donald Trump qui est élu, deux, qui met de la pression, trois, le trou un peu dans la loi, ça fait que depuis le début de l'année, il y a des volumes au poste frontalier de la colle, puis ça va en augmentant.
Oui. Maître Maxime Lapointe, on regarde ce qui se passe actuellement à Haïti. Là. Bon, le gouvernement semble être un peu débordé par tout ce qui se passe dans ces rues. Les policiers, bon, il y en a certains policiers qui sont restés policiers, d'autres qui sont malheureusement morts en étant policiers, et d'autres qui ont tout simplement défroqué, qui sont rendus dans des gangs de rue. C'est un peu l'asile à Haïti. On peut pas retourner des Haïtiens qui étaient chez nous pendant plusieurs années dans cette situation-là. Ça représenterait peut-être un danger pour leur vie. Y a-t-il quelque chose qui est là en place pour les protéger? Parce que si Trump met la main sur des Haïtiens, ce qu'on comprend, c'est qu'il va tout simplement les déporter vers Haïti. Mais compte tenu du fait que le pays n'est pas stable actuellement, il me semble que ça va à l'encontre des droits de l'homme de faire ça.
Il y a deux choses, là. On va parler du Canada en premier.
Okay? Ouais.
Bon. Alors, il y a un sursis administratif au renvoi dans des pays en guerre. Il y a une liste de pays dont Haïti fait partie. Et exemple, si on fait une demande d'asile au Canada, ben, si c'est approuvé, on devient une personne réfugiée reconnue par le Canada.
Ouais.
Si c'est refusé, le dossier se dirige vers les services frontaliers qui vont déporter la personne. Mais on ne déporte pas les gens dans un pays en guerre qui sont sur une liste de pays qui font partie de pays éligibles à un sursis administratif. Donc au Canada, et ça, c'est important de le comprendre, ça veut dire que les ressortissants d'Haïti qui entrent au Canada actuellement par le poste frontalier de la colle, peu importe le succès ou l'insuccès de la demande d'asile qu'ils vont déposer,
ouais,
ils ne repartiront jamais. Là.
Voilà.
Donc, ça, c'est pour le Canada. Et maintenant, pour les...
En raison de l'instabilité à Haïti présentement?
Oui.
OK.
Donc, à moins que le Canada, pour toutes sortes... Exemple, Haïti se replace là, parfaitement, puis ouais, le Canada l'enlève de la liste. Mais d'ici là, on ne va pas déporter Haïti. Bon, maintenant, aux États-Unis, comment eux vont faire ça en regard du droit international puis juste du gros bon sens? Ça, je n'ai pas les informations. Moi, ce que je pense, c'est mon opinion personnelle, mais c'est un peu comme les tarifs. Le mois d'août, ça crée une panique chez les Haïtiens, mais ça peut être prolongé. La date, comme de rien, on l'a vu, on vient de le voir il y a quelques minutes, quelques heures, là. Les tarifs sont suspendus pour 90 jours. Donc, tout ce qui est géré...
Ça dépend de la température, en fait.
Tout ce qui est géré par décret aux États-Unis, ouais, par le pouvoir exécutif qui n'a pas à passer au Congrès, mais sa décision se revire assez rapidement selon le bon vouloir ou non là, de l'administration en place. Donc, pour les États-Unis, c'est autre chose, mais pour le Canada, on a des systèmes qui respectent les conventions internationales et ces gens-là ne vont pas être déportés, là.
OK. Qu'est-ce qui arrive? Parce que je lisais ce matin des articles qui concernent l'immigration, puis il y a des gens qui pensaient avoir des dossiers étoffés. Bon, ils mentionnaient qu'il y avait un oncle qui habitait à Montréal, exemple. Il y avait des preuves de certificat de connaissance et tout ça, puis qui se faisaient quand même refouler. Mm-hmm. Ce que vous dites, c'est on les prend pareil, même s'ils ne sont pas acceptés. On les laisse passer quand même.
Non. Il y a deux concepts là, à comprendre. Le premier, c'est la recevabilité, disons. Ça veut dire, est-ce que l'agent des services frontaliers va vous laisser entrer au Canada parce que vous dites que vous vous qualifiez dans l'exception de l'entente sur les tiers pays sûrs, ouais, pour avoir de la famille au Canada, puis que c'est documenté de manière satisfaisante pour l'agent? Donc, moi, ce que j'ai entendu dans d'autres dossiers, là, il y a des collègues qui m'ont parlé, m'ont dit, personne n'avait, exemple, un certificat de naissance d'Haïti écrit au crayon, l'agent n'y a pas cru. La personne, mesure d'expulsion, donc là, tu es interdit de territoire pendant un an, puis tu quittes le Canada et tu ne peux pas revenir. Là. Donc ça, il y en a. Là. Hier, les statistiques de l'Agence des services frontaliers du Canada disaient depuis janvier 2025, c'est environ 600 personnes là, qui ont été retournées. Mais évidemment, le chiffre va monter parce que le nombre de personnes qui s'essayent va augmenter de manière exponentielle dans les prochaines semaines.
Ouais. Ça, on a le droit, en tant que douanier canadien, de refuser ces gens-là. De l'autre côté, quand il y a un signal, là, quand ils arrivent au Canada puis ils se font dire de rebrousser chemin, les douaniers américains doivent bien les voir passer de l'autre côté. Là.
Ça, c'est quand même particulier parce que non seulement les douaniers américains n'empêchent pas les gens de venir faire la file au Canada. Donc, ça vient qui ressemble un peu au chemin Roxham,
ouais,
1.0 de 2017. Mais deuxièmement, les douaniers américains, je ne suis pas expert là-dessus, je peux me tromper, mais de ce que j'ai entendu récemment, les douaniers américains courent pas non plus après les gens qui ne réussissent pas à entrer au Canada. Donc, parce qu'hier, une journaliste m'appelle, elle dit, là, est-ce que le Canada les remet directement à l'escouade ICE qui est là pour déporter justement les immigrants illégaux? Moi, c'est pas le son de cloche que j'entends.
Ben, c'est pas notre travail de faire ça non plus.
Non, exact. La délation, là, mais reste qu'il y a un peu de laxisme des deux côtés pour cueillir les gens, pour les rediriger. Ces gens-là, ils ont des besoins aussi.
Oui. Et des enfants au travers de
non,
ça.
Non, c'est. Et là, ce qu'on a vu dans l'actualité hier, puis c'est là qu'on verra si le sujet va durer longtemps dans la campagne électorale fédérale, mais est-ce que on va juste se fier à Mark Carney qui dit, ah ben, en vertu de l'entente, on peut ne pas les laisser rentrer, puis ça va finir comme ça, puis la population va être contente. Ou est-ce que là, le Québec va s'en mêler justement en disant, ben non, mais là, nous, on sera. Parce que je viens de vous le dire, là, les Haïtiens qui rentrent, peu importe le succès ou non de la demande d'asile, vont rester chez nous probablement le reste de leur jour. Là. Donc, pour le provincial, qui lui, genre la santé, l'éducation, c'est un vrai enjeu. Là. Donc, mais dans la campagne électorale fédérale, je pense pas qu'on veut non plus parler de ce sujet-là qui est très sensible. Il y a des droits humains, il y a des droits fondamentaux. Dans d'autres médias, on me parlait justement de... Ça ramène à l'heure du jour, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on peut répartir les demandeurs d'asile au Canada? Donc, ça ranime le débat, puis ça vient un peu dérouter, je pense, le plan de match des partis.
Mais honnêtement, mettre la pointe, c'est bon, c'est sûr que moi, je suis un peu biaisé parce que j'habite au Québec, puis je vois comment ça se passe, puis tu sais, j'ai regardé ce qui se passait dans les autres provinces, j'ai voyagé régulièrement aux États-Unis. Si j'étais un immigrant, j'arrive d'Haïti, bon, je réussis à m'en venir aux États-Unis. Là, je regarde au Canada le panier de services dans les différentes provinces. C'est clair et net que rendu à Plattsburgh, je passe l'autre bord, puis je tourne à droite, puis je m'en vais au Québec. Là. Le panier de services est tellement incroyable pour les gens qui habitent au Québec qu'on est on est attrayant pour ces gens-là. Puis il y a du travail en plus. Là.
Oui, mais de l'autre côté, si c'était pas de la menace de Donald Trump, on n'en parlerait pas. Les volumes sont quand même mineurs. Là.
Ouais.
Donc, c'est la crainte de ne plus avoir de statut aux États-Unis, de se faire emprisonner, déporter, qui crée la vague migratoire qu'on est en train de vivre. Là. Donc, et là, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi dans la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, on a laissé des exceptions comme la famille au Canada, des mineurs non accompagnés. Il y a aussi des gens qui auraient un document d'immigration du Canada, exemple un permis de travail, c'est assez rare, puis des causes d'intérêt public. Là. Donc, il y a des exceptions, mais le problème dans l'immigration, c'est souvent ça, c'est que l'exception devient une porte d'entrée, puis la porte d'entrée devient la règle. Et on est 8-9 milliards sur la planète, ça fait en sorte que c'est facile de trouver l'affaire, puis qu'il y ait 10 000 personnes qui déposent un dossier si jamais l'affaire n'est pas colmatée. Là. Puis, je veux pas dire que c'est une faille, mais c'est une porte d'entrée que les gens utilisent. On comprend. Les politiciens provinciaux utilisaient le terme « la misère humaine ». Ça vient un peu quand même lourd là, d'écouter les discours des politiciens. Mais reste qu'on est dans une zone très grise là, parce que c'est pas illégal. On est dans l'exception. Puis là, on parlait tantôt du douanier. Le douanier a une discrétion aussi. Lui, le douanier exécute la loi. Donc, si les documents sont satisfaisants, il peut laisser la personne entrer, il peut aussi refuser. Puis entre les deux, il y a beaucoup de discrétionnaire. Peut-être que pour un douanier, la documentation va être bonne, puis pas pour l'autre. Donc, ça devient vraiment une zone très grise.
Puis dans votre métier, mettre la pointe, vous êtes spécialisé en immigration. Est-ce que vous envoyez souvent des gens qui sont déportés?
Bien, les bureaux des services frontaliers sont pas loin.
Ils sont dans votre bâtisse, là.
Ouais. Dans votre bâtisse.
Ils sont dans notre.
C'est ça.
Je pensais qu'ils étaient dans la bâtisse juste à côté.
Non, mais c'est à côté d'ici, là, c'est,
okay,
ça,
ouais,
c'est,
voilà.
c'est sur le boulevard. T'sais, donc ici, les services frontaliers, il y a 50-100 personnes par semaine là, qui ont des convocations où est-ce qu'il faut acheter un billet d'avion, montrer l'itinéraire à l'agent des services frontaliers, puis quitter. Puis quand on est rendu là, ben bon, est-ce qu'il y a un sourcil administratif parce que justement, on ne déporte pas dans un pays en guerre?
Ouais.
Est-ce que des fois, il peut y avoir un permis de séjour temporaire qui est donné à l'initiative du ministre? Moi, j'ai déjà sauvé de l'expulsion un employé qui travaille au restaurant Continental dans le Vieux-Québec in extremis. J'étais en train moi-même d'aller le reconduire à l'aéroport pour son vol vers la Guinée. Et on avait fait des pressions médiatiques quand même assez dans les dernières semaines. Puis j'étais en train de virer le rond-point ou le château Frontenac ou l'auberge du Trésor. Puis j'ai eu un courriel de l'agent qui travaille dans le bureau des services frontaliers ici sur Boulevard-Le-Bourgneuf et qui me dit « Le renvoi est annulé. » Donc 4 minutes après être parti, tout le monde pleurait dans le restaurant. La journaliste de Radio-Canada, le caméraman, propriétaire du restaurant. J'ai ramené le travailleur 4 minutes après.
Au restaurant.
Au restaurant. mais des cas comme ça, c'est l'exception.
C'est
de l'exception. Parce que les agents des services frontaliers sont là pour appliquer la loi. La
ouais.
loi, ça dit, vous aviez 30 jours pour quitter. La mesure de renvoi devient une mesure d'expulsion. Puis il n'y a plus de zone grise. Là. Donc des fois, même sur le forum de l'Association des avocats en droit de l'immigration, les avocats posent des questions, justement, encore ce matin, une qui disait une personne va se faire déporter, est-ce qu'on peut faire un sourcil, puis oui ou non, mais en cour fédérale, une autre avocate a dit écoute, les chances sont très minces. Faire intervenir les tribunaux pour dire que la décision des services frontaliers de l'agent qui vient appliquer la loi sur l'immigration, qu'elle est déraisonnable, la porte, elle est très petite.
Je disais ce matin que dans les hôpitaux du Québec, que ce soit à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Drummondville, il y a des gens qui viennent ici pour accoucher. Pour donner naissance à leur enfant. Ça donne l'occasion aux enfants d'avoir un passeport immédiat, une possibilité de passeport, mettre la pointe.
Oui, bon, ben, c'est le concept du droit de sol. Puis j'ai commenté dans cet article-là parce que la journaliste m'avait appelé, ça fait quand même déjà presque un mois. Puis après ça, on s'est rappelé, on a fait une entrevue. Puis moi, mon idée était quand même assez claire sur ce que je voulais recommander. Là. Mais on y reviendra. Mais elle, sur le principe, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a des vidéos sur les réseaux sociaux où des organismes donnent des trucs pour venir mieux accoucher au Canada, donc en disant que tu viens visiter, mais finalement, tu vas à l'hôpital, mais bon.
Donc, c'est la diaspora haïtienne avec des influenceurs qui donnent cette information-là?
Ah, ça, c'était pas nécessairement haïtien. Là. Ça peut être partout dans le monde. Là. Je pense que même le site était-tu hébergé en Estonie? Là. Mais peu importe, en Afrique, en Afrique du Nord. C'est bon, le concept de droit de sol, finalement, c'est... bon. Un enfant qui est né sur le sol canadien a le droit de demander le passeport canadien. Donc, il y a des familles qui disent, ben écoute, on a de la famille au Canada, tu vas prendre l'avion à 6 mois de grossesse, tu vas aller à l'hôpital. Et là, j'arrive au bout le plus juridique intéressant pour moi. Le Canada dit que c'est pas une fraude. Si tu viens accoucher au Canada, pas de RAMQ, et que tu payes ta facture. Okay? Et là, l'article, c'était de dire, non, non, là, les hôpitaux ont des comptes à recevoir à coût de millions parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leurs factures, ils ont des ententes de paiement qui négligent de payer pour toutes sortes de raisons. Là. Et là, bon, alors la journaliste, moi, m'interpelle avec ça, puis je dis, ben moi, mon idée est assez claire, là, c'est le Québec devrait envoyer un état de compte à tout le monde, donner 30 jours pour payer. Si les gens ne payent pas, le Québec devrait envoyer le rapport au fédéral, parce que le fédéral, comme je viens de vous dire, considère que c'est pas de la fraude si tu viens coucher puis tu payes ta facture. Donc moi, ma compréhension, c'est que si tu payes pas ta facture...
C'est de la fraude.
C'est de la fraude. Puis si c'est de la fraude, bien, la loi sur la citoyenneté prévoit des mécanismes pour révoquer la citoyenneté à quelqu'un qui l'aurait acquis par la fraude. Donc là, ça prend de la volonté politique du fédéral, peu importe le prochain gouvernement en place après le 28 avril, de vouloir rouvrir ou pas. Premièrement, le droit de sol en général. Moi, personnellement, droit de sol, je pense que ça vient d'une autre époque où il n'y avait pas d'avion et les gens venaient coloniser le territoire et dans le but qu'il y ait de la population. Là. Donc là, on est rendu dans des abus. Là. Quand il y a des vidéos qui donnent des stratégies, à mon avis, là, il y a de l'abus.
Ça, les politiciens, selon vous, devraient s'en mêler?
Devrait
restreindre un peu plus.
Absolument. Moi, je le restreindrais aux citoyens canadiens puis aux résidents permanents. Donc, ça veut dire que tu es un résident temporaire, étudiant, travailleur, visiteur. Bien, ton enfant, oui, on va l'accoucher ici puis tu vas payer ta facture, sinon on va te la réclamer. Mais le passeport, on ne te le donnera pas. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est complexe à mettre tout le monde d'accord. Mais je n'ai pas encore vu non plus l'argument contraire où est-ce qu'il y a des cas d'espèce de groupes qui défendent les droits humains qui vont peut-être dire « Oui, mais dans tel cas, ça va faire des enfants apatrides » ou je ne sais pas. Pardon. Mais de mon côté, là, je vois qu'il y a des abus. Une journaliste m'appelle. Moi, j'arrive avec une solution qui m'apparaît quand même assez mitoyenne. Premièrement, avec les déficits records du gouvernement provincial, je pense que le gouvernement a besoin de cet argent-là. Et la population... est assez mal à l'aise avec la situation quand on en parle dans notre entourage, quand on voit les commentaires, même des gens dans le milieu hospitalier qui disent trouvent ça bizarre.
Mais c'est tough parce qu'on a peur de se faire qualifier de raciste. Quand on parle de ce type de sujet-là, là, c'est tough pour les gens qui voient des proches immigrer au Canada. Ça fait des années qu'ils attendent. Puis là, finalement, pouf, ils arrivent et tout ça. Puis là, tu vois des gens qui disent « Ouais, mais attendez un peu. Là, on faudrait peut-être modifier certains trucs dans la loi parce qu'on perd énormément d'argent. » Ben, automatiquement, il y a des regroupements qui vont sortir en disant « Ah, ben si vous dites ça, c'est parce que vous êtes des racistes. » Le point n'est pas là. Le point est que faut que tout le monde puisse vivre dans un confort minimum, là.
Ça dépend quoi. Là. Tu sais, on parle des fois de capacité d'accueil, puis ça vient vite aussi avec des droits fondamentaux. Tu sais, exemple, il y a un autre média qui me parlait récemment de répartir les demandeurs d'asile.
Ben oui. Donc,
tu sais, ça vient avec des droits fondamentaux.
Ça leur prend des logements, ces gens-là.
Il y a ce bout-là, mais ce bout-là précisément, là, des bébés passeports, là, on ne paye pas la facture. Là. Donc, pour moi, le passeport canadien devrait venir avec le fait que tu as acquitté tes frais d'accouchement. Là. Je pense qu'il y a moyen de trouver un consensus général là-dessus. Puis c'est surtout, je pense, l'enjeu, à mon avis, c'est de dissuader les mouvements. C'est un peu comme on voit avec le poste frontalier à la colle. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui disent « Ça a marché pour moi, payez-moi 5 000 $, je vais aller vous porter. » Donc là, c'est là que ça crée des abus. Là. Donc, en dissuadant les gens, en disant « Désolé, le gouvernement du Canada, la loi sur la citoyenneté est renforcée. Si vous n'avez pas payé votre facture, bien, on va vous révoquer la citoyenneté. » Où on ne vous permettrait même pas de demander le passeport, parce que, sur la liste de contrôle, le passeport, tu as déjà demandé un passeport.
Oui.
Bon, il faut une photo, il faut payer des frais, il faut remplir le formulaire. Donc, si on demandait une preuve que les frais ont été acquittés, je réfléchis à voix haute avec toi, mais si on demandait une preuve que les frais ont été acquittés pour avoir le passeport canadien, c'est drôle, je suis sûr que les frais seraient acquittés.
Non, pas mal plus rapidement, je pense, effectivement. C'est un très bon point. Mais c'est ça, c'est particulier de parler de ça parce qu'on a toujours peur de se faire qualifier de raciste. Tu sais, je voyais François Legault qui parlait justement de la capacité d'accueil des immigrants. Bon, il est pro-immigration, François Legault, je le suis aussi. Mais à un moment donné, il faut être capable de loger ces gens-là dans des endroits qui ont du bon sens plutôt que de les mettre dans les endroits où c'est pratiquement invivable. Mais ça prend un certain temps avant de bâtir ces endroits-là pour pouvoir les accueillir, leur trouver des emplois et tout ça.
Mm-hmm. Bon, pour la répartition des demandeurs d'asile, moi, je vois deux choses. Premièrement, je vois un enjeu constitutionnel. L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit à la vie et à la liberté, donc c'est assez large. Si jamais, exemple, le gouvernement décidait unilatéralement de mettre les gens demandeurs d'asile, exemple, au poste frontalier de la colle, dans des autobus pour les envoyer, exemple, au Nouveau-Brunswick, il y aurait des groupements qui invoqueraient la Charte, ça finirait en Cour suprême dans 10 ans.
Parce que ce ne serait pas légal de leur dire vous devez rester là.
Il y aurait une question. Ce serait contesté. À la fin de la Cour suprême, dans 10 ans, dirait si oui. Parce que le test des tribunaux, on entend souvent ça. C'est quoi le test des tribunaux, finalement? Il y a trois choses. La première, c'est est-ce qu'il y a l'atteinte à un droit fondamental, oui ou non? Est-ce que la mesure, elle est raisonnable? Puis est-ce qu'elle est rationnelle dans le contexte? Là? Donc, si on prend cette... Moi, je pense honnêtement que répartir des demandeurs d'asile, admettons qu'on pouvait avoir une décision des tribunaux en dedans de 2 mois, je pense que ça passerait le test des tribunaux parce qu'on dirait, écoute, il y a une atteinte à un droit fondamental, la liberté de le droit à la liberté, c'est-à-dire droit à la vie, OK, mais la capacité d'accueil du Québec, elle est atteinte, donc la mesure, elle est justifiée, puis elle est raisonnable parce qu'on les amène à un endroit où les gens vont être mieux logés. Mais ça amène le deuxième problème. Il n'y a aucune province canadienne qui a levé la main pour accueillir plus de demandeurs d'asile quand François Legault a levé la main pour demander de l'aide. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Il n'y a personne au Canada pour les accueillir. Puis le premier problème, bien, c'était qu'il y a un enjeu constitutionnel de charte et le Canada a choisi d'avoir le consentement libre et volontaire et non de risquer de se faire poursuivre. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas là-dedans actuellement. Avec le gouvernement de Justin Trudeau, on verra pour la suite.
Ouais. Donc, on pourrait pas leur dire « Vous, vous restez dans le secteur du Grand Nord du Québec parce qu'il y a des emplois là puis il y a des endroits pour se loger là. » On pourrait pas leur dire « Vous devez rester là un minimum de 5 ans. »
Bien, on pourrait, mais ça serait contesté. Alors, regarde bien, la loi 21, la loi 96 du Québec, le gouvernement a voté des lois. C'est contesté devant les tribunaux. On s'en va en Cour suprême. Parce que une apparence d'atteinte à un droit fondamental. Donc, là-dessus, là, politique, un peu Maxime Lapointe, là, j'engage personne d'autre que moi, mais moi, de ce que je comprends, là, le Canada ne voudra pas faire des gestes qui risquent de créer des poursuites parce qu'il y a une potentielle atteinte à un droit reconnu par la Charte. Okay? Le Québec, de ce que je comprends, va rédiger sa loi, après va se rendre compte que c'est contesté, il va se battre bec et ongle, donc le législateur, hein, les fonctionnaires qui rédigent les lois. Bien, au provincial, la plupart des lois qui touchent la laïcité, la protection du français, sont contestées parce que probablement que les articles de loi vont trop loin. Et le gouvernement du Québec, ça ne leur dérange pas. Et là, ils se plaignent que le fédéral paie des avocats pour contester en Cour suprême. Mais ce n'est pas l'approche du Canada. Le Canada, lui, il va dire « Ma loi que je vais faire, je vais m'arranger pour qu'elle ne soit pas contestée. » Donc, si ça implique que on ne va pas forcer des demandeurs d'asile à aller dans un autobus pour aller dans d'autres provinces. On va plus aller sur le consentement volontaire. Bien, c'est l'approche qu'ils ont prise. Deuxièmement, il n'y a aucune unité nationale pour accueillir ces gens-là. Ça, c'est, à mon avis, c'est le plus gros problème.
Est-ce que, Maître Lapointe, ces gens-là sont bien informés? Parce que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a des gens d'influenceurs un peu partout dans le monde qui disent « Ah, vous voulez aller au Canada, voici ce que vous devez faire. » Je lisais ce matin un individu qui devait avoir des soins dans un hôpital du Québec et lorsqu'il a reçu sa facture, parce que c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur, lorsqu'il a reçu sa facture, il a dit « Ben moi, j'ai pas besoin de payer. Mes amis m'ont dit que j'avais pas besoin de payer. Vous avez fait un serment d'Hippocrate, donc vous avez pas à me charger. » Puis patati patata, et cette personne-là a quitté. Je veux dire, l'information se transmet. On peut pas rien faire contre ces personnes-là. Faut les soigner. On peut pas les laisser mourir dans la rue.
Non, ça, c'est sûr. Mais il faut dissuader, à mon avis, les mouvements qui sont, disons, discutables, pour pas dire illégaux ou irréguliers. Ça veut dire que éventuellement, on l'a vu hier un peu, hein, Mark Carney n'a pas eu la même approche que Justin Trudeau a eu par rapport aux demandeurs d'asile, disant « on va vous expulser ». Donc, éventuellement, il faut être un peu plus ferme en disant « le Canada reconnaît que c'est pas un crime, c'est pas une fraude, pardon ». Si vous payez vos frais, si vous ne payez pas vos frais, vous n'aurez pas de passeport. Tu sais, c'est, bon, le message que je viens de vous dire là en 15 secondes, Mais si c'était ça qui était véhiculé par le gouvernement, il n'y aurait pas de zone grise, là. Si vous venez au Canada puis vous ne payez pas votre facture, vous n'aurez pas de passeport canadien.
C'est assez simple.
T'sais? Donc, c'est peut-être ce bout-là où les politiciens veulent pas trop non plus se mouiller. Non, en plus, bon, on est en campagne électorale. On a vu juste avec Pierre Poilievre qui dit « Ah, nous, on va pas laisser rentrer les faux demandeurs d'asile. » Finalement, le devoir sortait hier qu'il y en aurait peut-être dans sa propre famille, de sa femme. Donc, c'est tendu. Là. C'est plus le temps d'avoir des déclarations un peu alambiquées. Là. Ça va être le temps d'avoir des positions qui sont fermes, mais qui se tiennent et qui ne vont pas être contestés par les tribunaux à cause qu'on porte atteinte à un droit fondamental.
Dans votre travail, Maître Maxime Lapointe, bon, vous avez parlé tout à l'heure que ce n'est pas les demandeurs d'asile qui vont vous voir. Vous êtes un avocat spécialisé en immigration. Est-ce que les gens vont vous voir pour faire du parrainage, pour faire venir quelqu'un d'un autre pays? Puis est-ce que ça s'est complexifié avec le temps, ces façons de faire-là?
Des parrainages? Je dirais on en fait à peu près 50 par année. On travaille toujours sur 2-3 dossiers de parrainage en même temps. Moi, j'ai aussi beaucoup de consultations sur des gens qui me demandent comment ça fonctionne, qui ne sont pas encore rendus, exemple, ne sont pas encore mariés ou ils ne sont pas encore conjoints. De fait, 12 mois de vie commune documentée.
J'espère que vous les dissuadez de se marier. Ça, c'est aller à la guerre à la place. Ça va être moins tough.
Je leur recommande pas de se marier pour l'immigration, ça, c'est sûr.
Ouais.
C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais moi, pour moi, je recommande pas de se marier pour l'immigration. Mais, donc des consultations. Est-ce que c'est plus compliqué? Non. Mais, au niveau politique, il y a une guerre assez sévère entre le Québec et le Canada. On commence avec le petit cours d'immigration 101. Pardon. Dans les seuils d'immigration au Québec, le Québec dit 50 000 immigrants, sinon c'est suicidaire. Donc, on a une pochette de 50 000 personnes par année. Dans les 50 000, il y a l'immigration économique. Je pense entre autres aux travailleurs qualifiés. Il y a le programme de gens d'affaires aussi. Dans l'immigration humanitaire, mais là, il y aurait un demandeur d'asile qui est approuvé par la Commission de statut de réfugié. Et il y a aussi, entre autres, là, le regroupement familial. Okay? Dans le 50 000, le Québec dit au Canada, traite-moi 10 000 dossiers dans le regroupement familial par année. Et il y a 3 étapes au regroupement familial. Je fais ça très simple. L'étape 1, c'est l'admissibilité du parrain. Si t'es pas en prison, t'es pas en faillite, ça va bien aller. L'étape 2, c'est le Québec qui va donner un certificat de sélection à la personne puis une demande d'engagement. Ça veut dire que tu es responsable de ta conjointe, ta femme pendant 3 ans. Et ensuite, c'est l'examen de la santé et sécurité au Canada par le fédéral. Donc, l'étape 1, l'étape 3, c'est le Canada. L'étape 2, le Québec est entre 2 étapes fédérales. Okay? Et au fil des années, le Québec, à son étape, à lui, a accepté 15, 17 000 demandes par année. Donc, on se retrouvait avec un inventaire de 30, 40 000 dossiers. Et le Québec dit au Canada, finis-moi 10 000 dossiers par année. Donc, c'est comme un serpent qui mange une souris. Là. Ça crée une bulle. Et les délais de traitement font en sorte qu'au Québec, ça prend 3 fois plus de temps pour un dossier identique que partout ailleurs au Canada. Donc, c'est pourquoi l'année passée, vers le mois de février, j'ai poursuivi le gouvernement du Québec en disant que les délais de traitement étaient inusuels parce que le Québec, en imposant un seuil maximal au Canada dans une catégorie qui est foncièrement fédérale, le regroupement familial, c'est le fédéral qui dicte les règles. J'ai dit que c'était déraisonnable. Et finalement, c'était pour mon dossier en plus de plongeur au restaurant continental. J'ai dit, si lui, les délais de traitement étaient usuels, donc 12 mois comme partout au pays, bien, il ne serait pas en train de se refaire déporter. Parce que l'année d'après, que je l'ai sauvé de l'expulsion, comme je vous disais, ils ont réessayé encore de l'expulser.
De le déporter.
Donc là, bref. Et là, le Canada a dit, hey, c'est un affront. C'est pas un affront. Le Canada a dit... C'est un enjeu de justice sociale. Donc, on va traiter plus vite les dossiers du Québec, indépendamment que ce que le Québec nous demande de traiter. La ministre à l'époque, Christine Fréchette, a dit non, c'est un affront à notre compétence. Le Canada a dit, si vous voulez mettre un seuil, mettez-le dans la partie que vous contrôlez. C'est ce que le Québec a fait. Et là, au mois de juin 2024, quand tout le monde était parti en vacances par décret, comme Donald Trump, le Québec a mis un seuil de 10 000 dossiers maximum à traiter pour les 2 prochaines années. Donc, 2 fois moins qu'une année normale. Et là, le quota de 10 000 va être plein dans les prochains 2 mois À partir de ce moment-là, les délais de traitement vont exploser pour les gens qui veulent être réunis avec leur famille. Mais entre vous et moi, le processus, je me demande si ça a changé ou pas. C'est pas plus compliqué au niveau documentaire. Il n'y a pas de volonté politique d'accepter plus de réunification des familles parce que le gouvernement de la CAQ, ce qu'il dit, c'est dans le 50 000, on veut avoir le plus possible d'immigration économique, laquelle on contrôle, donc l'immigration humanitaire et le regroupement familial. On en veut le moins possible. Donc, c'est 10 000, mais je rappelle, le Québec en a approuvé, lui, dans les dernières années, 20, 30, 40 000. Là. Donc, c'est ça le problème de base.
OK. Là, moi, je suis responsable. Je m'en vais, je sais pas, moi, je m'en vais dans le sud, je rencontre une Américaine, puis on se dit qu'on veut habiter ensemble au Canada. Je suis responsable d'elle pendant 3 ans dans le processus?
C'est un engagement de 3 ans qui est d'un côté... indéchirable, OK? Je l'ai déjà testé, là, en 2017, là, je pense. Une dame avait parrainé son mari cubain qui, finalement, la battait. Donc là, c'était rendu avec la police, droit criminel et tout ça. Et puis, j'ai appelé au ministère. Je dis, écoute, est-ce qu'on peut déchirer l'engagement? Parce que là...
Et de la violence conjugale.
La conséquence de l'engagement, c'est que si jamais la personne faisait une demande d'aide sociale, ils vont aller chercher les garants, donc la personne qui parraine. Et donc là, j'ai appelé au ministère, j'écoute, on a cette femme-là. Et ils m'ont dit, oh, désolé, ça se brise pas. Mais on va mettre une note dans le dossier que si jamais monsieur faisait de l'aide sociale, on n'ira pas rechercher madame parce que là, il y a des motifs de droit criminel. Mais donc l'engagement, c'est 3 ans, mais c'est pas contraignant. Pas à donner un salaire à ton époux, à ton épouse, ton conjoint. C'est juste que si jamais il faisait une demande d'aide de dernier recours, là le gouvernement, Revenu Québec, vont dire non, là, t'étais supposé de t'occuper, que ça se rende pas là. Donc, généralement, les gens travaillent, ont accès à un permis de travail pendant la demande de parrainage.
Ouais.
Donc, c'est pas des cas où j'en ai jamais vu là, des cas où ça devenait... Tu sais, que l'engagement était vraiment trop contraignant, j'en ai pas vu.
Donc, on prend un exemple typique, là, un gars qui rencontre une femme dans le sud, décide de la faire venir ici, la femme arrive ici, puis elle regarde la maison, puis elle regarde le bonhomme, puis elle dit « Tu ressembles pas au même gars que j'ai rencontré en sud », puis elle sac son camp. Ça arrive jamais, ça.
Non, c'est pas que ça arrive jamais, c'est que moi, j'ai pas vu de cas où... Revenu Québec a dit, là, monsieur, votre femme... Mais ça, ce bout-là, c'est intéressant. Avec les délais de traitement de parrainage qui rallongent actuellement sur le site d'Immigration Canada, c'est 35 mois. Autant pour une demande faite à... Parce que tu sais, tu me parles tu rencontres quelqu'un dans le sud, mais tu prends pour acquis que cette femme-là, c'est une Américaine, donc elle peut entrer au Canada, pas de visa. Mais si c'est une personne du Guatemala, exemple, puis elle a besoin d'un visa, ça se peut qu'elle reste dans son pays pendant le traitement de parrainage, qui prend de plus en plus longtemps. Et il y a de plus en plus... Nous, on en voit au bureau, là, des dossiers où les gens mettent fin au processus, même pendant qu'on est en train de monter le dossier. Donc, le regroupement familial, c'est une catégorie qui me tient à cœur parce que je vois les délais et puis l'iniquité là, au Québec. Mais je pense qu'il y aurait besoin quand même de statistiques récentes. Moi, je demanderais, puis il devait avoir d'ailleurs des consultations publiques sur l'immigration et la planification pluriannuelle. Au printemps, ça a été reporté par le gouvernement du Québec. Mais moi, dans mon mémoire, que je vais faire quand ça va avoir lieu, peut-être à l'automne, mais je vais demander quand même au gouvernement des statistiques sur le taux de réussite des mariages après 5 ans. Parce que oui, on a les personnes qui sont dans le processus de regroupement familial qui voudraient que ça aille vite, mais je me demande c'est quoi le taux de réussite des couples une fois qu'ils sont arrivés au Canada, les deux, et ou une fois qu'ils ont passé au travers du processus. Ça prend 2-3 ans, c'est dur pour le couple. Et une fois que la personne est devenue résidente permanente, est-ce que les couples durent? Je ne veux pas me prononcer là, avec mon opinion personnelle, mais je serais quand même curieux. Puis avec les statistiques, ça permettrait peut-être de revoir les quotas aussi.
Parce que moi, mettre la pointe, là, c'est ma job de donner mon opinion, là, puis d'écouter un peu ce qui se passe autour de moi. C'est arrivé régulièrement à entendre parler des histoires d'horreur d'un gars ou d'une femme qui rencontre quelqu'un, exemple à Cuba, puis tombe en amour avec cette personne-là. C'est un bon danseur. Donc, décide de ramener cet individu-là ici. Et après quelques jours, le gars s'en va tout simplement, puis il réclame une genre de pension alimentaire. Je sais pas comment vous appelez ça, là. Mais il réclame un genre de truc comme ça en disant « Mais t'es responsable de moi pendant 3 ans. » Je sais pas en bout de ligne comment ça se termine, mais c'est cruel, ça. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent un passeport canadien. Mmh. C'est un passeport qui est intéressant, le passeport canadien, parce qu'une fois que tu l'as, tu peux aller partout dans le monde par la suite.
Ça amène d'autres questions de droit familial sur peut-être invoquer la nullité du mariage.
Mm-hmm.
Tu sais, si c'est un mariage qui aurait été fait à des fins frauduleuses ou qu'on peut démontrer justement avec des faits. Et je prends l'exemple que tu me racontes de précis, exemple, il arrive au joint d'école. Invoquer la nullité du mariage, ça pourrait être intéressant. Le droit évolue aussi à la lumière des cas qui sont présentés, la jurisprudence,
hein, ouais.
Donc les tribunaux développent des courants. C'est sûr que l'immigration va venir teinter un peu le droit familial.
Les jeunes qui arrivent chez nous, que ce soit à Montréal, Québec ou un peu partout ailleurs où il y a des universités au Québec, bon, ils arrivent ici avec des visas d'études. Est-ce que pour eux, c'est assez facile, une fois qu'ils ont le visa d'études, de demander une résidence permanente? Ou c'est un processus extrêmement long?
Bien, c'est pas long, là. C'est juste que il y a un programme qui est excessivement facile, qui s'appelle le Programme Expérience québécoise, qui dit si tu as terminé un diplôme de DEP, 1800 heures et plus, cours collégial, universitaire, bon, maîtrise, doctorat, baccalauréat, en français, tu peux demander direct la résidence permanente. Mais ce programme-là est suspendu actuellement jusqu'au 30 juin au minimum. Et ce programme-là était suspendu entre juillet 2020 puis novembre 2023. Il fallait ajouter une expérience de travail. Moi, je n'étais pas en désaccord avec ça. C'est pas à cause que tu vas étudier aux États-Unis que tu deviens américain. Mm-hmm. Donc, de demander un diplôme plus 12 mois de travail au Québec plus un niveau de français, pour moi, c'était pas fatal. Mais je me souviens qu'il y avait des regroupements d'étudiants étrangers en 2020 qui, dans un webinaire où j'étais invité, qui n'était pas d'accord, il dit « touche pas à mon PEC », il y avait des pancartes, là, tout ça. Là, il y a des quotas d'immigration, donc faut s'assurer qu'on ne va pas donner la résidence permanente à des étudiants gradués chômeurs, là. Mais le programme Expérience québécoise a été ouvert pendant un an par la ministre Christine Fréchette entre 2023-2024. Puis dans les consultations publiques au mois de septembre 2023, j'ai dit à la ministre « vous allez faire le saut, vous allez fermer le programme pendant 3 ans, vous allez avoir beaucoup de demandes ». Donc, ils ont fermé le programme en 2024, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, en disant « Ah, on a eu beaucoup trop de demandes, il faut qu'on ferme ça ». Donc, c'est pas si facile de demander la résidence permanente pour un étudiant parce que le programme est fermé. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de réformes pour les étudiants étrangers. Je pense entre autres au permis de travail post-diplôme. À la fin des études, on a le droit d'avoir un permis de travail de la même durée que le programme d'études. Mais maintenant, on ajoute une preuve de niveau de langue à fournir, anglais ou français. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des diplômes de DEP qui ne le donnent plus, ce permis-là. Donc, quand la population a demandé au gouvernement du Canada de baisser les volumes d'immigrants, le Canada a fait une série de petites mesures qui font en sorte qu'aujourd'hui, les étudiants étrangers, il y en a moins. Cette semaine, dans les médias, ça disait là, les cégeps ont des 40 % de moins d'admission que les dernières années parce que, premièrement, le permis de travail ouvert pour l'épouse est pratiquement impossible à obtenir, sauf pour certains diplômes. Donc, exemple, une famille de 50 ans qui disait « Bon, mais madame va venir faire un DEP, monsieur va avoir un permis de travail ouvert, puis éventuellement, les deux vont demander la résidence permanente quand ils pourront. » Ça, on ne peut plus faire ça depuis février 2024. Donc, les portes se sont refermées. L'autre porte qui se referme pour les étudiants étrangers, c'est que, malheureusement, les étudiants étrangers font souvent n'importe quoi. C'est-à-dire, ils entrent au Canada avec un permis d'études pour l'Université Laval, finalement, décident de faire un DEP, changent d'établissement d'enseignement, abandonnent les cours, essayent de reprendre. Et là, le Québec a resserré son règlement d'immigration en novembre 2023. Puis il dit, si vous n'avez pas respecté les conditions de votre premier certificat d'acceptation du Québec pour études, ben, on ne va pas vous le renouveler, on ne va pas vous en donner un autre. Puis on ne va pas vous permettre de demander la résidence permanente. Donc, moi, des gens dans mon bureau qui me disent, ben oui, moi, j'ai changé d'établissement d'enseignement, le cégep de Sainte-Foy, exemple, ils m'ont accepté, puis j'ai fini mes cours. Là, le Québec me dit non, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 3 par semaine, là. Donc, il manque un peu de pédagogie là, sur les étudiants étrangers dans les dernières années. Il y a des gens qui se sont fait dire « Oui, oui, il n'y a pas de problème, tu peux changer d'établissement d'enseignement. » Puis aussi, les règles ont changé. Ça, c'est un peu plus triste parce qu'il manque de prévisibilité. Là, les gens sont arrivés au Québec en disant « Bon, mais mon chemin d'immigration, ça va être ça. » Et là, aujourd'hui, il y a tellement de resserrements pour les travailleurs étrangers, pour les étudiants, pour la résidence permanente, que le plan vient à cafouiller et des gens qui perdent leur statut, j'en ai 3-4 par semaine au bureau.
Maître Lapointe, on va faire une très courte pause. J'ai encore plein d'autres questions à vous poser par rapport à l'immigration. Pour les gens qui veulent justement avoir des conseils par rapport à l'immigration, par rapport à résidence temporaire, résidence permanente, on parlait tantôt du regroupement familial, peuvent communiquer comment avec vous en allant directement sur votre site web?
Le plus simple, c'est c'est www.mlaimmigration.com. Il y a un onglet pour prendre rendez-vous. Je commence aucun dossier. Là, des fois, il y a des gens qui me textent, là, des clients actuels, des amis, ils veulent me parler d'un dossier. Je commence rien avant de faire une consultation parce que les règles ont tellement changé. J'ai une responsabilité professionnelle, j'ai un code de déontologie. Je laisse une trace écrite. Je fais un bon tri dans la consultation, mais je commence par une consultation, c'est sûr.
On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Reg against le matin.
Monsieur Labeaume, on parle beaucoup d'inertie présentement à la Ville de Québec et puis vous le cachez pas, point barre, vous aviez pas une bonne relation avec la CAQ. Qu'est-ce qui a chopé tant que ça avec la CAQ?
Ils ont décidé qu'ils se donnaient une stratégie d'être contre les projets de la Ville. Mm-hmm. Alors, pas besoin de te dire que quelqu'un qui est contre les projets de la Ville, quand j'étais maire, moi, ça fonctionne, ça marchait pas.
En effet.
Alors, j'ai blasté puis j'ai dit « touchez pas à ça ». Puis ils ont perdu. T'sais, j'ai connu 6 premiers ministres, moi, là, ça n'a de rien. Là. C'est parce que Jean Charest, il aimait ça, les projets, lui. J'arrivais à des rencontres, puis Jean Charest me disait, bon, ben, Régis, avant qu'on parle du projet, je dis, moi, non, combien ça coûte, t'sais. Fait que... Alors, c'est fun de travailler avec un premier ministre qui a le goût de développer. C'est vraiment agréable, tu sais. Puis Jean Charest, puis même Philippe Couillard, on a eu beaucoup de plaisir, mais bon, que veux-tu? C'est de même, là, la CAQ, ils sont vindicatifs, là.
Reg Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm. C'est ça.
Hébergement Rive-Nord offre un milieu de vie adapté aux personnes avec une déficience intellectuelle ou un TSA. Bienveillance et professionnalisme au cœur de notre mission. Info au hébergementrivenord.com.
Hey, Audrey, la nouvelle saison de Sextape a officiellement été lancée avec le podcast de Mademoiselle V, disponible en passant sur toutes nos plateformes et sur la chaîne YouTube de Boulevard. Et là, lundi 14 avril, préparez-vous à un épisode haut en couleur avec notre invité Colia. On démystifie l'univers des furries. Est-ce que c'est réellement un univers sexuel? Si oui, ben à quel point? Ça vient d'où, cette passion-là? Collier a amené en passant son fameux fursuit. Donc, rendez-vous lundi, 19h.
Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. Promo d'avril, cadeau gratuit à l'achat de 10, 25 ou 50 $. Deux adresses, 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon et au 7e ciel.com.
À Québec, un fort, ça se mange déjà.
Chez Desjardins Autocollection, en avril, nous avons des offres incroyables sur les camions. Conduisez le tout nouveau F-150 STX 2025 pour seulement 110 $ par semaine en location 24 mois ou le F-150 Lightning 2024 en location avec des rabais jusqu'à 15 000 $. Desjardins Autocollection sur la rue Marais à Vanier. Détails en concession.
À Québec, un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Vous voulez vendre une maison, un immeuble ou un terrain? Les Immeubles Urbains font des offres d'achat rapides, sans conditions et ce, peu importe l'état de votre propriété. Service simple et efficace. Vendez facilement grâce aux Immeubles Urbains. Pour plus de détails, visitez immeubleurbain.ca.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole. Qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez un massage de 30 minutes d'une valeur de 89 $ à 45 $. Ou encore une thermopompe de 15 000 BTU d'une valeur de 6 366 $ à 3 183 $.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Réno en vue? Céramix vous offre 30 % sur les planchers chauffants à l'achat de céramique. Un vaste choix de porcelaine grand format et de vinyle de grade commercial à partir de seulement 1,79 $. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix 430 Saint-Sacrement, céramix.ca.
Les taxes? Oublie ça! À l'usine, on les paie pour toi. Utilise ton budget sur ce qui compte vraiment. Des meubles beaux et ultra confortables qui changent la totalité de ton décor. Pour un temps limité, en boutique et sur l'usine.design.
Vous aimeriez faire carrière en éducation? Le Centre de services scolaires de Portneuf vous invite à sa journée carrière. Sur place, café, discussion et entrevue. Ne manquez pas notre journée carrière le 11 avril dès 9h au Centre de formation de Portneuf à Donnacona.
Bonjour, c'est Cécile des Cliniques Viva. Vous nous l'avez demandé, on vous a écouté, c'est le grand retour de la carte cadeau 125 $. Pour la recevoir, c'est hyper simple. Planifiez une consultation sans frais dans l'une de nos 6 succursales, peu importe le traitement qui vous intéresse. Direction cliniqueviva.com.
Avec tout ce qui se passe autour de nous, on peut-tu juste s'assurer de ne pas s'oublier? De se souvenir de qui on est, nos valeurs, notre culture, notre identité? On peut-tu se choisir? Cette année, je me choisis. Je nous choisis.
Je suis Yves-François Blanchet. L'avenir du Québec ne se décidera pas sans nous. Je choisis le Québec.
Autorisé par l'agent principal du Bloc québécois.
Depuis 30 ans, Je reçois traiteur régale le Québec. Boîte à lunch, buffet, barbecue ou repas raffinés, nos menus conviennent à tous les goûts et tous les budgets. Savoureux, bien présenté et parfait pour chaque occasion. Obtenez une soumission gratuite sur jereçois.ca.
Économisez 150$ sur les lunettes chez Gresh et Scaff. Jusqu'au 27 avril, économisez 150$ sur une paire complète avec monture de grande marque et des verres fabriqués à Montréal. Chantal Gravel, opticienne, apportez votre prescription ou réservez votre examen de la vue sur gresh-scaff.com.
Besoin de faire installer une fosse septique? Faites affaire avec de vrais pros. Chez Dexco Excavation, on en maîtrise l'installation sur le bout des doigts. Résidentiel, commercial, raccordement aux services municipaux, on s'adapte à votre situation pour des travaux durables et conformes aux normes. Accrédité pour tous les systèmes du marché et pour les subventions de la Ville de Québec, nous livrons qualité et expertise à prix compétitif. Dexco Excavation, plus de 20 ans d'expérience. Dexcoexcavation.com.
Écoélectrique, une idée branchée de JM Auto Plus, est maintenant ouverte et c'est votre destination pour les petits véhicules électriques à Québec. Quadriporteur et triporteur EcoloCycle, carte de golf Explode et beaucoup plus. Pour en savoir plus, visitez écoélectrique.com.
Boulevard 102, la radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
OK, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à télé puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix?
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102, quand t'en as besoin, sans le savoir.
102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Maxime Lapointe est avec nous ce soir. On parle d'immigration. Maître Lapointe, la dernière fois qu'on s'était croisés, ça date déjà de quelques semaines. Je vous avais parlé d'un cas, en fait, de 3 cas qui m'avaient sauté complètement en face. Puis ça date déjà de plusieurs années. Et votre réponse m'avait grandement surpris. J'étais, avant de faire de la radio, fait que ça remonte peut-être aux années début 2000, j'étais dans un restaurant, puis je travaillais là. C'était un restaurant où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans et où il y avait des employés comme pas possible. On était peut-être 150 employés dans ce restaurant-là. À un moment donné, à la fin de la soirée, je me ramassais tout le temps à plonge pour aller aider les gars, tu sais, jaser les gars, jaser avec les gars. Et très souvent, c'était des postes qui étaient réservés aux immigrants. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais les immigrants faisaient le travail à la plonge. Puis moi, j'aimais ça aller jaser avec eux autres parce que j'apprenais plein d'affaires. Tu sais. Ils venaient d'un peu partout dans le monde et tout ça. Puis à un moment donné, c'est ce soir-là que je vous avais parlé. Je jase avec 3 gars. Les 3 gars viennent du continent africain, pas des mêmes pays, mais ils viennent du continent africain. Et il y en a un qui est à côté de moi, qui est à l'université, qui a eu son, qui avait déjà son doctorat en médecine, qui devait refaire sa médecine. On parle d'un homme de 50 ans, Maître Lapointe, mm-hmm. qui est autour de 50-55 ans, et que le Canada avait recruté en Afrique pour dire « Nous, on a du travail pour toi, viens chez nous ». Une fois rendu ici, il se fait dire « Non, t'as encore des cours à faire, faut que tu te retournes à l'université en médecine ». J'en revenais pas que ce gars-là, qui était de la bonne main-d'œuvre, qu'on l'oblige à aller refaire des cours supplémentaires puis qu'on l'oblige à travailler à la plonge dans un restaurant. Je trouvais ça hallucinant. Et les deux autres, il y en a un qui est en médecine nucléaire, même affaire. On lui avait demandé de refaire des cours et tout ça. Est-ce que ça se fait encore, ça, des fonctionnaires qui vont faire un tour dans certains pays pour recruter certains individus puis qu'ils les informent pas assez, ce qui fait en sorte que quand ils arrivent ici, veulent travailler en médecine, exemple, et se font dire « Non, je pense que tu vas devoir retourner à l'université pendant quelques années avant d'avoir accès à nos patients qu'on aimerait que tu rencontres. »
Bien, ça revient avec avoir la bonne information avant de débuter quoi que ce soit en immigration, parce que c'est sûr, moi, tu me racontes ça, je suis pas surpris de rien, dans le sens que, premièrement, il y a un ordre professionnel. Donc, ouais. C'est sûr que l'ordre des médecins va demander minimalement des cours en déontologie, une preuve de français. On le voit avec tous les ordres professionnels. Puis après ça, il y a des actes qui sont sous supervision pendant. Ça prend un plan. Là. Donc, oui. Ce bout-là, je suis pas surpris. Après ça, bon, il n'y a personne qui l'a obligé à travailler à la plonge non plus. Les étudiants ont le droit de travailler actuellement 24 heures semaine pendant qu'ils sont inscrits aux études. Ça, c'est mal compris par plusieurs étudiants étrangers. s'il y a des gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas inscrit aux études parce que vous avez lâché l'école, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc ça, il faut faire attention. Et l'autre côté, pour le bout de l'initiative de recrutement qui aurait été faite par le gouvernement...
Ça date d'à peu près 20 ans.
Ça, je le sais pas, mais ce que je sais, pour ramener ça dans le concret actuel, c'est que dans les deux dernières années, même quatre, le gouvernement du Québec, lui, a multiplié les efforts de mission de recrutement à l'international avec des fonds publics pour amener des entreprises à recruter des travailleurs étrangers.
Ouais.
Et tellement, de l'autre côté, récemment, resserré les règles en matière de recrutement international, faire en sorte que des entreprises qui sont allées recruter par une initiative du gouvernement et qui reviennent avec des CV, quand ils veulent démarcher... démarrer les démarches d'immigration, alors ils ne se qualifient plus au programme parce que les règles ont trop changé. Donc ça, là-dessus, mon enjeu, c'est surtout au niveau de l'intervention de l'État. Là. L'État québécois ou canadien, son travail, c'est d'analyser une demande de permis puis de l'imprimer. C'est pas de prendre des fonds publics pour amener des entreprises pour recruter. Le privé est capable de faire ça. Moi, avec mon argent de poche, des travailleurs étrangers pour des entreprises, j'en recrute 300 par année, là, les années où on avait des gros volumes. Là, les règles ont changé cette année. Peut-être qu'on va recruter 50. Mais reste qu'on n'a pas besoin de mettre de l'argent public. Même chose pour la francisation. Le gouvernement du Québec, à mon avis, a dépensé beaucoup trop d'argent pour essayer de franciser tous les immigrants que le gouvernement a laissé rentrer versus laisser la place aux entrepreneurs de créer des écoles, donner des crédits d'impôt, enregistrer des cours en ligne. Là, on est pris avec une plateforme qui s'appelle Francisation Québec. On coupe dans les budgets. Le gouvernement se fait traiter de renier sa promesse de franciser les immigrants, mais ils en ont trop donné. Donc, le concept d'intervention de l'État, à mon avis, n'est pas nécessaire. Le Canada et le Québec aussi sont assez attrayants pour qu'on n'ait pas à faire des grandes offensives de recrutement international.
Est-ce que c'est complexe quand on est un immigrant de se partir une entreprise au Québec? Parce que je sais qu'il y a des clients qui s'informent auprès de vous à ce sujet-là. Là.
Ça m'amène plusieurs commentaires, là. Mais je veux commencer par celui-là. Tiens. Si on veut demander la résidence permanente comme travailleur qualifié qui travaille depuis 2 ans et qui parle français, il y a un programme pour ça, programme expérience québécoise. L'expérience acquise pour une entreprise que tu contrôles n'est pas reconnue. Donc, il y a des gens, c'était dans les médias encore récemment, là, c'est souvent des gens de France qui font mal leurs papiers, ça finit dans les médias, malheureusement. Mais c'était un cas où la personne était dans une entreprise à son compte, puis c'est dans les conditions d'ouverture, c'est écrit, tu peux pas appliquer. Ça serait trop facile de te faire un faux talon de paye puis une fausse attestation de travail. Okay? Donc, pour demander la résidence permanente avec un permis de travail, l'expérience à ton compte, c'est un problème. Après ça, pour démarrer une entreprise... constituer une société, ouvrir un compte de banque pour la compagnie, c'est pas si compliqué, mais il faut avoir le droit de travailler dans sa propre compagnie. Donc, il faut un permis de travail, ce bout-là. Plus compliqué. Avant, il y avait le concept de propriétaire opérant, donc on pouvait demander un permis de travail pour sa propre compagnie. Et là, le Québec a commencé à resserrer les règles. Ailleurs au Canada, ça marchait. Même ailleurs au Canada, maintenant, ça ne marche plus. Il faut que toute nouvelle entreprise passe dans le programme des travailleurs étrangers temporaires qui doit montrer qu'elle est en affaires pour vrai puis qu'elle a la légitimité d'opérer et de payer le travailleur étranger. Donc oui, ça vient rapidement complexe au niveau de l'immigration parce que faire des affaires, que ce soit ouvrir un compte de banque, démarcher une clientèle, offrir un service, facturer, envoyer les documents au comptable, payer des impôts, c'est pas le bout qui est plus difficile.
Mais on peut louer la bâtisse. Est-ce qu'on peut l'acheter, cette bâtisse-là? Est-ce que c'est possible d'acheter cette bâtisse?
C'est une bonne question. Si on achète une bâtisse, c'est de l'immobilier commercial. On peut en acheter. Là. Il y a un règlement sur l'interdiction d'achat de biens immobiliers pour des non-résidents du Canada, mais c'est de l'immobilier.
Qui date d'un an, à peu près, là?
C'est 2023, de mémoire. Peut-être mais c'est reporté, c'est extensionné jusqu'en 2027. Là. Puis hier, on voyait... cette semaine, le NPD qui voudrait interdire aux non-résidents d'acheter de l'immobilier. Là. Donc, mais il y a déjà un règlement qui couvre ça. Ça c'est pour de l'immobilier résidentiel. Il y a des exceptions. Exemple, si vous avez un permis de travail, vous pouvez acheter de l'immobilier. Si l'immobilier est dans une municipalité qui est hors recensement, genre région éloignée, tu peux acheter aussi. Donc, c'est pas impossible. Louer une maison, louer un commerce... c'est pas illégal. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à ce bout-là, peut-être, qui est intéressant pour les auditeurs. Monsieur, madame, tout le monde qui loue des appartements, qui loue des chambres, qui loue des commerces, ce serait peut-être intéressant de porter plus attention au statut d'immigration de la personne à qui vous louez. Parce que là, Les employeurs se ferment les yeux, font travailler des travailleurs pas de permis. Les gens leur louent des appartements. Et éventuellement, il faudrait que la société civile soit au courant. Dit, écoutez, vous êtes en situation d'immigration illégale. Je pense que ce serait mieux de quitter versus on va continuer. Tu sais, le statu quo n'est pas toujours la meilleure option. Mmh.
Mais parfois, ça peut être extrêmement complexe. Je trouve ça le fun que des gens peuvent vous demander conseil pour ouvrir des entreprises, pour acheter de l'immobilier et tout ça. Des fois, dans la noirceur, là, ça prend un avocat pour essayer de nous allumer la lumière en disant « voici ce qui se passe, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne